Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre En vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant. Quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, ce roman incroyable tiré d'une histoire vraie, L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. L'histoire d'un mythomane pris au piège de sa propre imposture. Ce récit, publié en 2000, est consacré à un fait divers exceptionnel et sordide, l'affaire Roman. Il marque un tournant dans la littérature du genre dit de la non-fiction. Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman tue sa femme, ses enfants, ses parents, puis tente, mais en vain, de se suicider. L'enquête a révélé alors qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait et même qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis 18 ans et ce mensonge ne recouvrait rien. Près d'être découvert, Jean-Claude Roman va supprimer tous ceux dont il ne supporte le regard. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis entrée en relation avec lui, j'ai assisté à son procès, j'ai essayé de raconter précisément jour après jour cette vie de solitude, d'imposture et d'absence, dira l'auteur. L'adversaire est l'un des noms donnés au diable dans la Bible, comme l'indique Carrère dans une interview. Ce roman a été adapté au théâtre et au cinéma en 2002 avec Daniel Auteuil dans le rôle principal. Luc Admiral a été réveillé le lundi peu après 4h du matin par un appel de Cotin, le pharmacien de Prévesin. Il y avait le feu chez les Romans. Ce serait bien que les amis viennent sauver ce qui des meubles pouvait l'être. Quand il est arrivé, les pompiers évacuaient les corps. Il se rappellera toute sa vie les sacs de plastique gris scellés dans lesquels on avait mis les enfants. Trop horrible à voir. Florence avait seulement été recouverte d'un manteau. Son visage, noirci par la fumée, était intact. En lissant ses cheveux dans un geste d'adieu désolé, les doigts de Luc ont rencontré quelque chose de bizarre. Il a tâtonné, fait rouler avec précaution la tête de la jeune femme, puis appelé un pompier pour lui montrer au-dessus de la nuque une plaie béante. « Ce devait être une poutre qui lui était tombée dessus », a dit le pompier. Le grenier s'était à moitié effondré. Ensuite, Luc est monté dans le camion rouge où on avait étendu Jean-Claude qui, seul de la famille, vivait encore. Son pouls battait faiblement. Il était en pyjama, inconscient, brûlé mais déjà froid comme un mort. L'ambulance est arrivée, l'a emporté à l'hôpital de Genève. Il faisait nuit, froid. Tout le monde était trempé par le jet des lances à incendie. Comme il n'y avait plus rien à faire autour de la maison, Luc est allé chez les Cotin pour se sécher. Dans la lumière jaune de la cuisine, ils ont écouté la cafetière hoquetée sans oser se regarder. Leurs mains tremblaient en soulevant les tasses, en remuant les cuillères qui faisaient un bruit terrible. Puis Luc est retourné chez lui annoncer la nouvelle à Cécile et aux enfants. Sophie, l'aînée, était la filleule de Jean-Claude. Quelques jours plus tôt, elle avait, comme souvent, dormi chez les Romans. Elle aurait très bien pu y dormir cette nuit et être maintenant dans un sac gris, elle aussi. Depuis leurs études de médecine à Lyon, ils ne s'étaient pas quittés. Ils s'étaient mariés presque en même temps. Leurs enfants avaient grandi ensemble. Chacun savait tout de la vie de l'autre, la façade mais aussi les secrets, des secrets d'hommes honnêtes, rangés, d'autant plus vulnérables à la tentation. Quand Jean-Claude lui avait fait la confidence d'une liaison, parlé de tour ou envoyé promener, Luc l'avait ramené à la raison, à charge de revanche quand ce sera mon tour de jouer au con. Une telle amitié fait partie des choses précieuses de la vie, presque aussi précieuses qu'un mariage réussi, et Luc avait toujours tenu pour certains qu'un jour ils auraient 60, 70 ans, et du haut de ces années, comme d'une montagne, regarderaient ensemble le chemin parcouru. Les endroits où ils avaient buté, failli s'égarer, l'aide qu'ils s'étaient mutuellement apportée, la façon dont, au bout du compte, ils s'en étaient tirés. Un ami, un véritable ami, c'est aussi un témoin. Quelqu'un dont le regard permet d'évaluer mieux sa propre vie, et chacun, depuis 20 ans, avait sans faillir, sans grand mot, tenu ce rôle pour l'autre. Leur vie se ressemblait. Même s'ils n'avaient pas réussi de la même façon. Jean-Claude était devenu une sommité de la recherche, fréquentant des ministres et courant les colloques internationaux, tandis que Luc était généraliste à Ferney-Voltaire. Mais il n'en éprouvait pas de jalousie. Seuls les avaient un peu éloignés ces derniers mois un désaccord absurde à propos de l'école où allaient leurs enfants. Jean-Claude, d'une façon incompréhensible, était monté sur ses grands chevaux, au point que lui, Luc, avait dû faire les premiers pas, dire qu'on n'allait pas se brouiller pour une telle vétille. Cette histoire l'avait tracassé. Cécile et lui en avaient discuté plusieurs soirées de suite. Comme c'était dérisoire à présent. Comme c'est fragile la vie. Hier encore, il y avait une famille unie, heureuse, des gens qui s'aimaient, et maintenant un accident de chaudière, des corps carbonisés qu'on transporte à la morgue, sa femme et ses enfants étaient tout pour Jean-Claude. Que serait sa vie s'il s'en tirait ? Luc a appelé le service des urgences à Genève. On avait placé le blessé en caisson hyperbare, le pronostic vital était réservé. Il a prié avec Cécile et les enfants pour qu'ils ne reprennent pas conscience. À l'ouverture de son cabinet, deux gendarmes l'attendaient. Leurs questions lui ont paru étranges. Ils voulaient savoir si les Romands n'avaient pas d'ennemis déclarés, d'activités suspectes. Comme il s'étonnait, les gendarmes lui ont dit la vérité. Le premier examen des cadavres prouvait qu'ils étaient morts avant l'incendie. Florence de blessures à la tête infligées par un instrument contondant, Antoine et Caroline abattus par balles. Ce n'était pas tout. À Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, l'oncle de Jean-Claude avait été chargé d'annoncer la catastrophe aux parents de celui-ci, de vieilles personnes fragiles. Accompagné de leur médecin, il était allé chez eux. La maison était fermée. Le chien n'aboyait pas. Inquiet, il avait forcé la porte et découvert son frère, sa belle-sœur et le chien baignant dans leur sang. Eux aussi avaient été tués par balles. Assassinés. Les Romands avaient été assassinés. Le mot éveillait dans la tête de Luc un écho sidéré. « Il y a eu vol ? » a-t-il demandé, comme si ce mot pouvait réduire l'horreur de l'autre à quelque chose de rationnel. Les gendarmes ne savaient pas encore, mais ces deux crimes frappant à 80 km de distance les membres d'une même famille faisaient plutôt penser à une vengeance ou à un règlement de compte. Ils en revenaient à la question des ennemis et Luc, désemparé, secouait la tête. « Des ennemis ? Les Romands ? Tout le monde les aimait ?» S'ils avaient été tués, c'était forcément par des gens qui ne les connaissaient pas. Les gendarmes ignoraient quel métier exerçait exactement Jean-Claude. « Docteur », disaient les voisins, mais ils n'avaient pas de cabinet. Luc a expliqué qu'il était chercheur à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Un des gendarmes a téléphoné, demandé à parler à quelqu'un qui travaillait avec le docteur Roman. Sa secrétaire ou un de ses collaborateurs. La standardiste ne connaissait pas le docteur Roman. Comme son interlocuteur insistait, elle lui a passé le directeur du personnel qui a consulté ses fichiers et confirmé « Il n'y avait pas de docteur Roman à l'OMS ». Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tiffaine à la technique de m'avoir accompagnée. La semaine prochaine, nous partons dans la forêt amazonienne sur les pas du vieil homme qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Très belle semaine sur Esprit Occitanie, riche en lectures palpitantes. Et surtout, n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.